Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 juin et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Autour de la table, il y a Héloïse. Salut Héloïse.
Salut Marie.
Est-ce que ça va aujourd'hui alors?
Ouais, super, on a le soleil, même s'il se cache un peu aujourd'hui, mais il fait toujours bon, il fait meilleur dans les studios, c'est plus agréable.
On profite en tout cas, ouais, quand même plutôt du soleil, hein. On n'a pas un microcosme à la radio, vous inquiétez pas, où il y aurait plein d'orages, pas du tout. On reste aussi en Mayenne, évidemment, à Château-Gontier et Laval, pour cette émission, évidemment. Émission en direct, vous le savez, du lundi au vendredi, autour de l'actualité en Mayenne, avec encore un sacré programme, enfin j'espère en tout cas, c'est peut-être un petit peu prétentieux dit comme ça, mais en tout cas plusieurs sujets à aborder aujourd'hui, et on va commencer par un parc d'un nouveau genre que tu vas nous présenter, Héloïse.
Et oui, aujourd'hui, Marie, je vous emmène à la découverte du WAF Park, un parc canin qui se situe à Saint-Georges-Butavant. L'objectif est de s'amuser durant une heure, voire toute l'après-midi, avec son chien et ceux des autres, évidemment, pour apprendre à sociabiliser tout en s'amusant.
Je m'appelle Élodie, je suis la créatrice du WAF Park. C'est un centre de loisirs canins qui se situe à Saint-Georges-Butavant. En fait, c'est vraiment qu'un parc de jeux où le maître va rester sur place avec son chien et profiter de toutes les activités qu'il y a sur place. Comment est venue l'idée de créer le parc? C'était surtout par rapport à mes animaux à moi. En fait, moi j'ai deux cockers anglais, donc j'en ai surtout une qui est fugueuse, donc il lui fallait un endroit assez sécurisé. Et je trouvais pas trop d'endroits où je pouvais la lâcher sans qu'elle puisse s'enfuir en fait, et surtout voir d'autres chiens aussi pour la sociabilisation. J'ai passé du coup le diplôme de la cassette. Donc la cassette, c'est une formation certifiante qui autorise à toute personne de pouvoir s'installer à son compte en tant que pension, élevage ou parc canin. Donc moi j'ai ce diplôme-là et j'ai passé en plus un diplôme de secourisme canin. Au cas où s'il y avait voilà, un chien qui se faisait piquer, un chien qui se blesse ou quoi, au moins j'ai les premiers secours pour pouvoir réagir correctement. Et après, dans la formation, on apprend aussi à comment gérer une bagarre au cas où si vraiment il y avait un souci. Et j'ai aussi la formation de massage canin. Pour le moment, je suis la seule en Mayenne. Alors le parc, il est ouvert du coup toute l'année. Le but, c'est de pouvoir faire voir autre chose à son chien. Et c'est vrai qu'en balade, il y a des chiens qui sont en forêt ou même en ville. Ils peuvent pas être forcément détachés, donc ils ont pas la même approche sur les autres chiens. Et ici, le but, c'est qu'on puisse voir comment notre propre chien, il est en comportement avec les chiens sur place. J'ai des éducateurs qui viennent sur place aussi avec leurs clients. Comme ça, ils voient comment le chien réagit avec les autres chiens et qui proposent en fait des petits cours, des petites techniques pour de personnes qui viennent sur place pour faire ça. Et j'en ai aussi en partenaire qui viennent souvent proposer des ateliers comme des cours d'agilité, des écoles de chiots. Et j'ai aussi une ostéopathe canine qui est venue proposer un atelier de massage. Alors dans le parc, vous allez pouvoir trouver plein d'agrès d'agilité. Donc vous avez des barres de slalom, des sauts de haies. Après, vous avez des pneus de tracteur qui sont semi-enterrés pour pouvoir passer en dessous. Et vous avez un trampoline, pareil, enterré aussi pour que le chien il ait plus d'accessibilité. Un bac à sable et après, il y a deux piscines. Donc une piscine de nage et une piscine où le chien à pied en fait, a fait à peu près 70 cm de hauteur. Et il y a un tremplin pour qu'il puisse y aller plus facilement. Et après, dans la piscine où ils ont pied, en fait, il y a des balles colorées. Donc en général, c'est ce qui leur donne envie d'y aller.
Je m'appelle Morgane, je suis venue avec mon chien du coup qui s'appelle Aloy, c'est une femelle berger belge terbuérine pour ceux qui connaissent, c'est la même famille que Malinois mais c'est pas exactement pareil. C'est la deuxième fois que je viens au WAF Park, j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux et par des amis aussi qui étaient venus dans le coin. Et la première fois que je suis venue, c'était vraiment sympa, il y avait plusieurs autres chiens en plus donc c'était chouette pour sociabiliser, puis découvrir un petit peu tout ça, la piscine, mon chien moi, elle adore l'eau donc elle s'est tout de suite plu dans le parc. Tout ce qu'il y a agility c'est pas trop son truc mais tout le reste elle a su en profiter. Quand même, donc c'était vraiment chouette.
Et si vous voulez venir découvrir plus précisément ce paradis des chiens, rendez-vous ce week-end 1er et 2 juillet à Saint-Georges-Butavant où Élodie organise une kermesse des toutous. Au programme mini-jeux, lot à gagner et tombola, mais vous pourrez aussi trouver des professionnels du monde canin, entre autres éducateurs, photographes, ainsi qu'un stand de la SPA de Vitré.
Et oui, merci beaucoup Héloïse pour ce parc d'un nouveau genre. Hein, on a bien compris en tout cas que c'était un parc vraiment presque comme pour les enfants, mais pour les chiens. Merci avec cette kermesse donc ce week-end. L'occasion, alors avant ce week-end évidemment, de faire un point sur l'actualité aujourd'hui, mardi 27 juin dans le département. Avec cette annonce hier, un été très compliqué pour les urgences dans le département avec les services des trois hôpitaux de Laval, Mayenne et Château Château-Gontier qui seront fermées toutes les nuits à partir du 3 juillet de 18h30 à 8h le lendemain matin. Il faudra impérativement appeler le 15 ou le 116-117 avant de vous déplacer. En cause, malheureusement, toujours pour les mêmes raisons, hein, le manque de personnel soignant. Le syndicat Force Ouvrière 53 se désole que l'hôpital de Laval est incapable d'ouvrir ses urgences pendant 40 jours et qu'à Château-Gontier, la situation se soit aussi dégradée depuis l'année dernière, en particulier pour garder son SMUR ouvert. Même condamnation de cette fermeture la nuit par la CGT 53 qui pointe un problème de plus grande ampleur lié aux déserts médicaux sur notre département. C'est intolérable selon le syndicat car il doit y avoir une égalité de traitement sur tous les territoires. Eux demandent au président de la République de tenir ses promesses. Plusieurs élus des Pays de la Loire, de tous bords politiques, dont Christelle Morançais, la présidente de la région, mais aussi Florian Bercot, le maire de Laval, ils ont adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron avec un objectif, lui demander que l'État tienne ses promesses pour le réaménagement de l'aéroport Nantes-Atlantique, ce qui n'est pas le cas, selon eux, depuis l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la promesse, un an plus tard, en février 2019, d'une compensation de l'État, compensation qui selon eux, n'arriverait pas pour l'instant. Nouvelle journée de grève ce mardi pour les salariés du Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie. Après celle du 10 juin dernier, l'ensemble des syndicats appelle à nouveau à la mobilisation pour défendre le pouvoir d'achat des salariés, explique-t-il, tout en déplorant une dégradation persistante du dialogue social depuis plusieurs années. Fin de citation. Je suis un marronnier, sauvez-moi. La pétition lancée pour sauver de l'abattage 6 arbres du lycée Douanier-Rousseau à Laval a déjà récolté plus de 3500 signatures en quelques jours. Des arbres qui pourraient être abattus dans le cadre de travaux d'extension de l'établissement scolaire, alors qu'ils sont un poumon vert en centre-ville, selon les opposants. Une mayonnaise meilleure apprentie de France en coiffure. Elle a été sacrée ce week-end à Nice. Océane Pilet a remporté l'or. Donc en coiffure, elle est apprentie à l'Urma Mayenne chez les Cheveux d'Angèle à Mayenne. Avec donc sa maître d'apprentissage Angélique Avenant, également professeur à l'Urma Mayenne. Et puis dans cette émission, je vous le disais, pas mal de sujets vont se succéder. On a déjà entendu le parc canin. Vraiment, où tout est fait exclusivement pour les chiens, évidemment pour leurs propriétaires. Et puis on va également parler de la prochaine saison du Carré, la saison 2023-2024, qui va arriver très vite, elle vient d'être révélée. La billetterie ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer ? Eh bien ça, vous le saurez d'ici quelques minutes. On va également parler, faire un focus sur l'une de ces dates du Carré avec un projet original qui mêle la musique classique et électro. Ça s'appelle DJEJ Orchestra. Et puis, vous le saurez là aussi plutôt en fin d'émission, vous le savez, on le fait tous les mardis à retrouver donc la chronique de Donatien. On parlera de fleurs et d'été parce que oui, c'est bientôt les vacances. Et tout ça, ce sera juste après Honey Fit Quick Ball. Ça, c'est tout de suite dans la JT du local. Benefit Quick Ball, ça c'est ce qu'on vient d'écouter dans l'AJT du local. Vous êtes bien à l'écoute aussi, bah, disons que de fois le mot écoute, en tout cas vous êtes bien sur l'autre radio, sur le 107.9 et le 101.7. Il est plus que temps, alors je pourrais vous dire ça pour toute autre chose, là en l'occurrence c'est le credo. Plus que temps, le credo de la prochaine saison du Carré à Château-Gontier, la saison 2023-2024 de la scène nationale de Château-Gontier, présentée il y a quelques jours au Théâtre des Ursulines, avec un peu moins de dates que cette année, mais toujours trois temps forts à retrouver et une coloration plus musicale au fil des rendez-vous. Zoom sur ce qu'il ne faudra pas manquer avec Maëlle Grenier, le directeur du Carré, et Christine Houdard en charge de la programmation jeune public. Pour cette présentation de la nouvelle saison du Carré 2023-2024, autour du temps, avec un visuel qui, moi, me fait penser à une horloge, pourquoi avoir fait ce choix-là, Maëlle ?
Alors, pourquoi la question du temps ? Parce que c'est un sujet qui nous concerne tous depuis bien longtemps. La question de l'accélération de nos rythmes de vie, moi, m'interpelle vraiment. Et je pense que la pause du Covid nous a tous interrogés sur cette capacité à vivre des vies effrénées, des vies hâtives. Et je voulais justement saisir ce sujet-là, parce que pour ce qui nous concerne, avec toutes les autres structures culturelles voisines ou collègues, on a tous connu une saison culturelle assez intense, cette saison qui se termine, avec tous les reports du Covid. Donc c'est des rythmes qui ont été rudes pour toutes les équipes qui se sont investies au maximum, mais qui ne peuvent pas être tenues bien longtemps. Et derrière ça, évidemment, la question de la modération, de la sobriété en énergie, c'est aussi la sobriété en énergie humaine. Et l'idée, c'est de questionner cette accélération et comprendre comment on peut ralentir de façon vertueuse. Voilà, donc j'ai souhaité ouvrir ce sujet-là et aussi témoigner du fait que le temps, c'est la racine mère de toutes les difficultés sociétales actuelles, et notamment la crise climatique est liée directement à la question de l'accélération, et ça vaut la peine de s'y pencher pour comprendre pourquoi.
C'est pour ça que, entre autres, ce sera au cœur de cette troisième édition d'un des temps forts de la saison. Autant pour nous, il y aura aussi plusieurs spectacles spécifiquement sur ce thème-là.
Alors tout à fait, dans ce programme-là, on a dessiné l'ossature de ce que sera le temps fort, qui n'est pas complètement défini. On aura un programme complet à partir de février 2024, mais déjà les habitants peuvent voir à travers le programme qui sort aujourd'hui plusieurs propositions, certaines sur le vivant, un spectacle sur la vitalité sociale et démocratique, et deux à trois spectacles effectivement sur la notion du temps, très particulièrement notamment un dernier spectacle qui clôturera le festival sur notre capacité à faire des choix. Et considérer qu'à partir du moment où on fait le choix de venir voir, par exemple, un spectacle, on rate de fait tout ce qui se passe ailleurs. Et c'est un vrai cas de conscience pour nombre d'entre nous. Donc c'est un sujet qui a été saisi par une des compagnies et qui est jubilatoire, parce que tout le monde s'y retrouve, tout le monde comprend parfois sa propre problématique ou contradiction vis-à-vis de ses choix par rapport à la multitude d'offres que nous avons autour de nous. Donc cette question du temps est une question de choix, et ce spectacle bien nommé s'appelle « À ne pas rater ».
Et parmi les autres temps forts qu'on retrouve aussi, il y en aura un qui va commencer dès les vacances de la Toussaint, ère de jeunesse, donc plutôt à destination du jeune public, mais pas que. On a vu que les autres saisons aussi, c'était très ouvert, ce sera le cas aussi cette année.
Oui, tout à fait. C'est avant d'être un temps fort à destination du jeune public, c'est surtout un rendez-vous à destination de la famille au sens large. On peut venir, multiples générations, les enfants, les parents, les ados, les oncles, les tantes. C'est vraiment de rassembler le maximum de personnes, et on essaye de faire des propositions pour à peu près tous les âges. Donc on aura quatre spectacles avec des formes assez variées. Des spectacles difficilement classables, justement, suivant les étiquettes classiques. On commencera avec Vite un selfie, donc ça c'est le spectacle qui est juste avant les vacances de la Toussaint. Vite un selfie, c'est comme rentrer dans un grand atelier de peintre avec quatre femmes qui vont créer et peindre en direct leurs portraits, donc à des rythmes différents. Il y en a qui vont en faire beaucoup, peindre plusieurs fois de façon différente. Une qui va prendre son temps, encore une question de rythme et de timing. Et par cet acte de création, elles vont aussi questionner notre image, en fait. Comment on traduit notre image? Qu'est-ce qu'on offre aux autres? Et je pense qu'elles vont aussi jouer un petit peu avec le public et l'image du public. Donc c'est vraiment un spectacle qui est hyper ouvert à partir de 8 ans. Et toute la famille peut s'y retrouver. On aura d'autres rendez-vous, une exposition interactive avec le groupe Zur qui est hyper passionnante puisqu'on va découvrir des petites installations assez magiques, assez troublantes. Et en passant de l'autre côté du miroir, on découvre comment ces installations fonctionnent et comment on devient acteur de ces images. On aura également un rendez-vous pour les tout-petits puisqu'on pourra être spectateur à partir de 3 mois cette saison. Donc avec toute petite suite, une proposition vocale, musicale, qui est voilà, une interprète incroyable qui va traverser les éléments, qui va, juste avec sa voix et quelques instruments, va traverser la terre, l'eau, le feu, l'air. Et c'est passionnant, c'est hyper étonnant et c'est un super moment à partager avec les bébés et les plus petits. Et on finira en beauté avec un concert pop-rock avec l'ogre en papier, histoire de bien se défouler, passer un super moment ensemble, faire un premier concert. Et puis tout ça sera agrémenté de multiples rencontres, des ateliers, des projections cinéma. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées pour... bien démarrer les vacances de la Toussaint. Il y a une semaine bien remplie.
Un programme très riche à retrouver, évidemment. On ne peut pas citer tout dans cette interview, c'est bien normal. Parmi les temps forts aussi qui va revenir, puisque les dernières de cette saison-là ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, les heures suspendues, ce temps fort du midi, ça fonctionne toujours aussi bien?
Jusque-là, ça fonctionne bien. Effectivement, le rendez-vous a l'air de plaire. Donc on redonne ces rendez-vous d'été, ces rendez-vous plutôt de printemps, à l'heure des beaux jours, à partir du mois de mai. Donc 2 rendez-vous au mois de mai, 1 rendez-vous au mois de juin, sur la pause méridienne, entre midi et 2, pour tous ceux qui peuvent se permettre de nous rejoindre dans le cloître pour pique-niquer ou manger avec un des food trucks qui est toujours présent dans le cloître. Et puis profiter d'une parenthèse artistique qui est toujours courte, qui dure entre 20 à 35 minutes par exemple, pour permettre de faire une pause, de repartir travailler, recharger. Donc là on a 2 propositions musicales. Voilà, un contrebassiste en solo et une pianiste qui nous fera un set autour notamment d'un compositeur français assez méconnu, Déoda de Sévrac, et 2 jeunes danseuses qui développent un set assez original, très court, de 22 minutes exactement, autour de la chorégraphie et la pratique du fest-noz. Voilà, musique bretonne revisitée à travers 2 jeunes danseuses contemporaines. Donc voilà, 3 lectures différentes pour un moment de convivialité et puis de plaisir partagé dans ce cloître toujours magnifique, quand il fait beau notamment.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de rendez-vous musicaux sur ces heures suspendues, mais aussi peut-être un peu plus que les autres saisons, plus globalement sur cette saison 2023-2024.
Oui, on s'en est fait la réflexion. Alors c'est effectivement une saison sur la question du temps. Du coup, le visuel en parle aussi et on se retrouve avec une saison rythmée par de la musique. C'est peut-être une logique qui s'est imposée à nous sans qu'on le sache. Il y a eu différents rendez-vous, en tout cas différentes propositions qui sont venues compléter les propositions de la programmation initiale. C'est aussi le fruit d'une réflexion de rééquilibrage, faire en sorte que les propositions artistiques soient à peu près homogènes. La musique a cela de transversal que c'est une discipline sans frontières qui permet de venir découvrir sans forcément maîtriser la pratique. Et voilà, ça donne une ouverture assez large sur tout ce que peut proposer le carré. C'est vrai que du coup, cette saison est même très musical, j'allais dire assez, mais quand même très musical, parce que même des projets qui peuvent être théâtraux sont toujours accompagnés de musique, particulièrement cette saison. Donc j'espère que ce sera un endroit de découverte, un endroit de franchissement pour venir tenter pour certains une première expérience. Et puis surtout, régénérer. Voilà, la musique, c'est quand même de l'énergie, c'est de l'énergie qui se communique, qui se vit dans le corps. et puis voilà, permettre de ressortir de cette expérience régénérée, ressourcée comme on le souhaite.
Ce sera le cas d'ailleurs dès l'ouverture de la saison fin septembre.
Voilà, exemple typique, on a donc notre artiste associé David Roland qui est danseur et chorégraphe, donc qui crée pas mal de formes participatives et qui démarre la saison avec une belle ouverture à travers un bal. Et un bal qui n'est pas tout à fait commun parce que c'est un bal où on danse évidemment, mais c'est un bal où on est conduit à danser de façon différente, c'est-à-dire on l'appelle bal participatif. Donc c'est un spectacle, mais un spectacle où tous les danseurs sont effectivement le public. Et il va nous emmener avec ses danseurs et ses musiciens à explorer l'univers des années 30, les années folles, une période justement, comme son nom l'indique, extrêmement folle, extrêmement productive, extrêmement riche d'inventivité, de créativité parfois débridée, surréaliste parfois. Et il a souhaité imaginer ce rendez-vous un petit peu en écho aussi à ce que vit le monde. On est dans une sorte d'anniversaire, presque l'anniversaire des 100 ans de cette période. On remarque aussi que le monde a besoin d'exutoire, parce qu'on le vit tous, la géopolitique est lourde et complexe, et comme il y a à peu près 100 ans, eh bien, il y a des moments nécessaires d'exultation collective, populaire, et on propose ce rendez-vous pour démarrer la saison tous ensemble, dans le cloître au carré. Il y aura donc ce bal à 21h30, précédé d'une conférence spectacle autour des années folles, un petit peu avant, autour de 19h au théâtre, et encore un petit peu avant, on démarre la soirée à 18h avec le vernissage de l'exposition de Céleste Richard Zimmermann dans notre nouveau lieu éphémère qui se trouve aussi au sein du cloître et qui va abriter certaines expositions du centre d'art pendant environ 3 ans, le temps de la rénovation prochaine de la chapelle du Genteil. Voilà, donc on va démarrer tambour battant, en musique, en rythme, et surtout dans un état d'esprit d'ouverture libre. Voilà, personne n'a besoin de connaître le charleston ou le step. Il y a même un petit dress code plume et paillettes pour ceux qui le souhaitent. C'est libre, c'est festif, quoi, en fait. C'est totalement ouvert, c'est un peu la thématique complète de la saison.
Et à l'inverse, l'une des dernières dates de cette saison au carré, ce sera le concert de DJEJ Orchestra. Ce sera le vendredi 7 juin 2024 au Théâtre des Ursulines. Un projet original qui mêle sur scène l'ensemble instrumental de la Mayenne et l'artiste électro DJEJ.
Moi, c'est DJEJ. Je suis beatmaker et compositeur de musique. J'habite en Mayenne depuis une petite vingtaine d'années maintenant. Et voilà, j'ai commencé le projet DJEJ en 2005.
Et parmi tous les autres projets que vous avez menés, bien sûr, il y a celui-ci, DJEJ Orchestra, avec l'ensemble instrumental de la Mayenne, avec une répétition qui a eu lieu il y a quelques jours, une ultime répétition peut-être. Et avant d'arriver à cette répétition, j'imagine qu'il y a eu d'abord la réunion de ces deux univers, entre vraiment un orchestre symphonique et vous, votre univers plutôt électro. Comment ça a matché finalement? Comment vous vous êtes rencontrés, si j'ose dire?
Eh ben, en fait, on a lancé ce projet il y a à peu près un an et demi. Et en début de 2023, on est vraiment rentré dans le vif du sujet. À cette occasion, j'ai rencontré Chloé Mézy, qui est du coup la chef d'orchestre de l'ensemble instrumental de la Mayenne. C'est une rencontre qui s'est faite par le biais du 6x4, qui est la salle de concert de Laval et de Mayenne Culture. Qui m'ont proposé de monter ce projet un peu fou, d'adapter ma musique en mode orchestral. Donc voilà, ce projet est né un peu d'une idée folle, et en fait, on se rend compte que maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Effectivement, ce mois-ci, on était en répétition, les premières répétitions en tutti, comme on appelle ça, donc avec l'orchestre et le guitariste, le bassiste et moi-même.
Est-ce que c'était un univers que vous connaissiez déjà ou pas forcément ?
Si, moi j'écoute... Alors j'écoute pas forcément de la musique classique, mais j'écoute beaucoup de musiques qui ont été faites avec des orchestres, notamment des bandes originales de films que j'écoute beaucoup, notamment celles qui sont parues dans les années 70. C'est vraiment là où je vais piocher aussi mon inspiration. Donc, c'était un peu, je vais pas dire naturel, mais disons que ma musique s'adaptait bien à l'avoir revisité par un orchestre. Et du coup, on a travaillé avec Sébastien Blanchon, qui est l'arrangeur, qui a su faire en fait le palier entre ma musique et l'orchestre classique.
Est-ce que ça demandait une grosse adaptation, justement, entre, même s'il y avait des ponts qui déjà existaient, si j'ai bien compris, mais ouais. Entre votre musique et vraiment le fait de faire des partitions pour chaque instrument de l'orchestre, par exemple, comment ça s'est passé très concrètement?
Eh ben, en fait, si vous voulez, moi, ma musique est faite à base de machines, de samples. Donc, c'est un support différent des partitions, effectivement. Donc, il fallait effectivement quelqu'un qui fasse la passerelle entre cet univers-là un peu numérique et les partitions. Et on en a profité pour amener une plus-value un peu plus orchestrale à ma musique. Sur certains morceaux, et d'autres où on a réécrit les passages qui existaient déjà sur des partitions pour qu'elles soient jouées par les différents musiciens. Donc effectivement, c'est Sébastien qui a fait vraiment ce travail de passerelle ou de pont entre les deux univers. Il l'a vraiment bien fait. Et voilà, en fait, c'était un trio artistique entre Chloé Mézy, la chef d'orchestre, moi et Sébastien, pour qu'on trouve les bonnes recettes et qu'on apporte quelque chose à la fois intéressant pour le public, intéressant pour l'adaptation de ma musique, intéressant à jouer pour les musiciens qui seront présents sur l'orchestre.
Quels intérêts, finalement, est-ce que vous trouvez à ce projet-là? Alors, c'est un peu bizarre comme question, mais...
Non, non, c'est pas bizarre. En fait, y a déjà deux intérêts. C'est la croisée des publics, qui est quand même très intéressante. Le public qui vient me voir en concert ne va pas forcément voir des concerts ou des représentations de musique classique. Et inversement, ceux qui viennent écouter de la musique classique ne vont pas forcément dans les salles de musique actuelles ou plus orientées électro. Donc, on avait déjà ce gros projet de croiser les esthétiques et croiser les publics pour leur faire découvrir que les deux peuvent se mélanger. Et aussi, on avait l'ambition, et je pense que c'est réussi, de ne pas faire une couche musique électro superposée d'une couche de musique classique. On voulait vraiment que ça soit un ensemble musical, comme si la musique avait été créée comme ça à la base. Il y a des passages qui vont être un peu plus orchestraux que sur mes morceaux originaux. Et différemment, il y a des passages où... moi, j'ai parfois des morceaux qui vont sur une esthétique un peu de musique brésilienne, etc. Où là, c'est quelque chose de complètement inhabituel pour les musiciens de l'orchestre classique. Donc, ramener cette notion de cordes, de violon, de violoncelle sur ce type de musique, ça a été hyper intéressant. Et on prend tous du plaisir à jouer, puisque c'est quelque chose, que ça soit du côté classique ou du côté électro, où on n'a pas l'habitude de faire l'un et l'autre. Et là, rejoindre ces deux univers, ça donne vraiment quelque chose de sensationnel. On se sent porté par toute cette équipe. Et il y a aussi quelque chose de très agréable, c'est que moi, d'habitude, quand je suis sur scène, je suis la plupart du temps seul. Donc, on va dire que je dois faire tout du début à la fin, le morceau, et toute la lumière, façon de parler, et focus sur moi, que là, on peut vraiment... en fait, distribuer un moment à chacun, que ce soit les cordes au niveau des cuivres, un solo de saxo, un solo de guitare. Et c'est hyper plaisant, en fait, de passer la balle comme ça. En fait, c'est comme un jeu, en fait, où voilà, je vais pas dire c'est chacun son tour, mais chacun son petit moment de gloire sur scène. Et c'est vraiment super agréable de voir ça. Et puis, c'est un peu un rêve de gosse, en fait, de voir sa musique jouée par 17 musiciens, de voir les idées qu'on a eues il y a 7 ou 8 ans, de les voir rejouer comme ça par des violons, par une section de cuivre. C'est à la fois un rêve et une volonté de casser un peu les frontières. On est bien peu de choses.
Thank you. Alors ça, c'était pas des JEJ Orchestra, forcément, puisqu'ils sont encore en train de répéter, mais c'est l'un des titres de DJEJ qui sera probablement, qui fera partie de ce nouveau spectacle, de ce nouveau concert du DJEJ Orchestra. On écoutait Final Round avec Hugo Kant sur ce titre. Vous êtes toujours bien à l'écoute de l'Agité du Local sur l'autre radio. Et donc, effectivement, on parlait du DJEJ Orchestra qui sera le 7 juin 2024 à Château-Gontier. Avant ça, ils feront leur grande première le 24 novembre prochain au Théâtre de Laval. Et en parallèle, pourrait sortir début 2024 un album live du projet en vinyle. Il sera aussi bien sûr disponible sur les plateformes numériques. Et puis, plus globalement, aujourd'hui, la billetterie du Carré pour la prochaine saison ouvre ce mardi à 13h30 en ligne sur le site le-carré.org ou bien directement à leur bureau à Château-Gontier qui sera ouvert spécialement ce mardi et demain mercredi jusqu'à 20h. On va découvrir l'ultime chronique de la saison de Donatien qui rend hommage aux fleurs d'été, et aussi à la Bretagne, destination de vacances s'il en est.
Les géographes et les randonneurs le connaissent sous le nom de GR34. Les historiens férus de contrebande et les gabelous sous l'appellation de sentier des douaniers. Les promeneurs en vacances empruntent le sentier côtier, tout simplement. Rêveurs solitaires, leurs yeux se plissent quand ils regardent scintiller les diamants sur l'océan dont l'éclat ne se laisse pas davantage photographier que les rayons du désir dans un regard épris d'amour. Alors, avec son appareil photo ou son pinceau, on capture une voile blanche sur l'azur, la caresse du pin maritime à l'ombre bienfaisante, le jaune vif des genêts ou des ajoncs. Ah, c'est bien là la question, de savoir qui est genêt et qui est ajonc. C'est pourtant facile de se souvenir que l'un porte des épines et l'autre pas. Mais allez donc savoir lequel des ajoncs ou des genêts porte ses épines. Tellement plus facile de distinguer la rose noble de la sauvage églantine. Ah, toutes ces fleurs sans lesquelles la nature ne serait qu'une aride étendue sans poésie. La marguerite qu'on effeuille, la violette qu'on porte à l'opéra, la capucine que l'on danse, et le daphné auquel un baiser, un dieu et un peintre offrirent l'immortalité. Dénumérer tous ces prénoms sur la route des vacances qui mène à la mer d'Iroise, Donatien sent monter aux joues le rouge de la Marylis. Un peu ivre, confondant dans sa mémoire le myosotis et la violette, la gentiane et l'absinthe, le voilà grisé de ses propres pensées. Il se souvient de Blanche, une chanson de Pierre Perret et de cette orchidée de riche qui fleurit dans ses bras. De cette fleur jetée par une bohémienne sur le cœur d'un brigadier. De cette rose emperlée des pleurs d'argent de la rosée, de ce coquelicot sur un corsage blanc. Un peu triste, Donatien plaint cette fleur que l'on nomme princesse et qui, en Amérique du Sud, ne s'ouvre qu'une nuit par an, et cette autre qui ne fleurit qu'une fois tous les 10 ans. Comment ne pas leur préférer la méridienne qui s'ouvrait chaque jour à l'heure de midi, et cette autre vivace que les botanistes nomment cœur de Marie. Donatien roule vers le Finistère. Il ne peut s'empêcher de regretter les œillets de son jardin, ses impatiences et ses soucis livrés à la chaleur estivale. Voici bientôt Quimper. Il est déjà midi passé d'un bon quart d'heure. Sur son portable, relié par Bluetooth à son autoradio, Donatien se branche sur sa radio préférée.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur l'autre radio, bien sûr. Merci beaucoup Hervé qui se cache derrière la plume de Donatien.
Oui, les durecs quarantaines. Oui, les
jusqu'à la dernière note. Merci beaucoup pour cette jolie chronique d'Onatien qui est un peu... Bah, c'est l'inception de la chronique. Là, on est en un bout d'émission dans la chronique diffusée elle-même dans l'émission. Jolie mise en abyme. Merci beaucoup en tout cas. Et au niveau musical, donc, on a écouté... Alors, je m'excuse d'avance pour cet accent horrible. Yann Fanch-Kemener avec Enes Eusa. Je pense que c'est du breton et je ne sais pas le prononcer, mais c'était très joli. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce mardi 27 juin. Restez bien sur l'autre radio, ben oui, parce qu'à 19h, il y aura Au Catering, émission musicale sur les découvertes de, j'allais dire de l'année, en tout cas non, mais des découvertes récentes. Hein. Donc si c'est ça, on peut dire de l'année qui vient de s'écouler. Ce sera suivi à 21h de l'émission Frères de Chaussures. Et nous, on revient demain pour une nouvelle émission. Je vous souhaite évidemment une très belle journée.